Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Nous sommes au rendez-vous avec vous, mesdames et messieurs, et c'est avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au débat. Liliane, bonjour.
Bonjour Saint-Ish, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque semaine. Et notre premier sujet, Saint-Ish, c'est le Burkina Faso, qui a à nouveau été meurtri cette semaine par des attaques terroristes à Solane. Plus de 130 morts, selon le gouvernement, qui a réagi en accentuant la présence des forces de sécurité dans la zone. Cette énième attaque pose une nouvelle fois des questions sur la stratégie de lutte du gouvernement burkinabé contre des groupes terroristes dans le pays.
Des groupes armés qui montent en puissance avec plus d'audace et qui visent principalement des populations civiles. Pour le président Roch Marc-Christian Kabore, au-delà des solutions burkinabées, c'est l'Afrique qui doit, je cite, se ressaisir et s'unir pour lutter contre les djihadistes, Liliane.
Les pays du Sahel devront bientôt faire sans l'opération française Barkhane de lutte contre le terrorisme. Comment vont-ils se réorganiser après l'annonce de la fin de cette force par le président français Emmanuel Macron ?
La transformation sera profonde selon le chef de l'État français qui a annoncé la mise en œuvre d'une alliance internationale strictement concentrée sur la lutte contre le terrorisme. Que signifie ce changement de politique pour le Sahel et surtout le Mali, plus que jamais confronté toujours aux défis sécuritaires? Les analyses et commentaires à suivre dans le débat.
Dernier sujet, le Tchad, Wakitama, la coordination des actions citoyennes qui continue de dénoncer un coup d'État du Conseil militaire de transition, accepte le dialogue mais pose ses conditions.
La plateforme qui réunit des partis politiques et la société civile a déclaré vouloir apporter son expertise à l'organisation et au suivi du dialogue inclusif annoncé. Pendant ce temps, l'ex-parti au pouvoir, le Mouvement patriotique pour le salut, le MPS, montre des signes de division interne. Liliane.
Et nous avons comme grand témoin cette semaine Dr Issaka Soaré. Monsieur Soaré, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être notre invité cette semaine. Vous êtes consultant, expert international sur les questions de paix, de médiation et de gouvernance à Conakry. Vous êtes docteur Soaré, titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, au Canada. Vous avez été impliqué dans plusieurs processus de dialogue politique et de médiation, notamment en Afrique. Ces 20 dernières années, vous avez entre autres travaillé au secrétariat international d'Amnesty International à Londres, à l'Institut d'études de sécurité, l'ISS à Pretoria en Afrique du Sud ou encore au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Et vous avez été notamment, docteur Soaré, conseiller spécial du haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, l'ancien président burundais et défunt Pierre Buyoya, auteur de plusieurs ouvrages dont « Les partis politiques de l'opposition en Afrique, la quête du pouvoir » ou encore « Guerre civile et coup d'État en Afrique de l'Ouest ». Le plus récent de vos ouvrages est « La lutte contre le terrorisme en Afrique, acte de bienveillance ou prétexte géostratégique ». Blaise Dimadoum Gargoun, journaliste et analyste politique tchadien Ndjamena. Bonjour Blaise.
Bonjour.
Saint-Ish, voilà pour le plateau.
Nous commençons avec le premier sujet, le Burkina Faso. L'attaque du village Solane dans la province du Yaga, région du Sahel, est à ce jour la plus meurtrière commise par les groupes terroristes au Burkina Faso. 132 personnes, selon le décompte du gouvernement, 160 morts. D'après les sources locales, ont donc été tuées dans la nuit de vendredi à samedi par des hommes armés. Les victimes sont des civils villageois et des volontaires pour la défense de la patrie, ceux qui aident les forces de défense dans la lutte antiterroriste. Le chef de l'État, Roch Marc-Christian Kabore, a déclaré que ce crime ne restera pas impuni. Et au lendemain du drame, l'armée a accentué sa présence dans la zone avec des opérations de ratissage par des troupes spéciales. Une unité nouvellement créée d'après un décret datant du 2 juin dernier, donc d'avant le drame. Les autres mesures prises par le gouvernement burkinabé sont notamment la suspension des activités d'orpaillage, l'interdiction de l'importation et de la commercialisation des produits pétroliers et puis le couvre-feu instauré dans 14 provinces depuis 2019 a également été prolongé. Alors, docteur Issaka Soaré, première question, que peut apporter une nouvelle unité, les forces spéciales en l'occurrence dont j'ai parlé tout à l'heure, dans cette lutte contre les groupes armés, quand on sait que ces groupes se déplacent aisément d'un village à un autre?
Je commencerai d'abord par souligner, comme vous l'avez dit, le caractère atroce et ignoble de cette attaque à Solna il y a une semaine à peu près. et exprimer la sympathie avec les victimes. Monter une unité spéciale, je pense qu'on peut l'inscrire dans le cadre des efforts des autorités burkinabées pour faire face à la menace des groupes armés qui s'épuisent dans plusieurs endroits du pays. Alors, son apport va dépendre de la stratégie qui est mise en avant et des moyens qu'on va aussi donner et mettre à la disposition des éléments de cette force. À noter que l'approche tout sécuritaire ne s'est pas avérée payante pour la lutte contre les groupes armés. Il faut alors une approche multidimensionnelle qui inclut, il faut le dire, l'approche militaire, mais il faut surtout aussi des approches socio-économiques parce que les groupes armés...
Alors, c'est vrai qu'on reproche un peu au gouvernement de tout miser sur la lutte militaire, mais en même temps, quand on est en face de groupes qui passent d'un village à un autre, qui commettent des actes aussi, vous l'avez précisé, aussi atroces et meurtriers, est-ce que justement le militaire, la lutte militaire n'est pas celle qui devrait être mise au devant ?
Non, je ne pense pas. Comme j'ai dit, avoir une approche multidimensionnelle n'exclut pas des composantes de cette approche-là. C'est pourquoi on l'appelle multidimensionnelle et intégrée. Et il n'est pas difficile d'avoir des approches concomitantes. Parce que lorsque vous voyez que des éléments des groupes armés réussissent à se faire abriter par des populations ou se cacher au sein des populations, je pense qu'il est important d'essayer de comprendre comment cela s'est fait et quel partenariat étroit on peut avoir avec ces populations. Faire cela n'est pas par une approche militaire uniquement qu'on peut le faire, même si avoir l'approche militaire pour appuyer les autres approches qu'on peut dire soft, politiques, économiques, vont apporter une dynamique à ces approches-là. Mais le tout militaire, de l'expérience d'autres pays, mais du Burkina, parce que ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on prend l'approche militaire. Les expériences ont montré l'importance d'avoir à côté des approches sécuritaires d'autres approches qui s'accentuent sur certaines des revendications ou des prétextes ou des conditions qui sont exploités, manipulés par les groupes armés.
Mais docteur Soiré, je vais revenir à ce que vous avez dit à l'instant hein, sur cette approche multidimensionnelle, mais je voudrais que vous disiez en quelques mots, quelle est votre analyse sur le fait que cette attaque de Solan ne soit toujours pas revendiquée? Et très souvent, lorsqu'il y a des attaques au Burkina Faso, il n'y a pas de revendication. Comment analysez-vous cette stratégie de groupe terroriste?
Justement, je pense que le caractère atroce de l'attaque peut expliquer ça. Peut-être que ceux qui l'ont mené ne l'avaient pas conçu tel qu'il s'est avéré. Et voyant ce que cela peut donner comme émotion, comme désapprobation populaire, ils ne veulent pas donc s'afficher et revendiquer. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que même ces groupes-là ont peur d'une certaine opinion. Et c'est justement la conquête de cette opinion-là que j'appelle à ce qu'on considère comme une des approches à déployer pour lutter contre ces groupes. C'est comme ça que je peux expliquer, c'est-à-dire on a mené une attaque, l'attaque a donné des résultats qui vont au-delà de ce qu'on a envisagé, et on a peur qu'on soit associé à cette
attaque. Mais à vous entendre, docteur Soiré, on dirait que ces groupes armés ont mauvaise conscience et qu'ils sont même peut-être préoccupés par leur image.
Mais même les criminels ont des remords parfois. Des criminels qui commettent des crimes se rendent compte parfois que soit ils ont mal agi ou soit d'ailleurs ce qu'ils ont fait peut être contre-productif pour eux. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des groupes armés terroristes qui agissent dans le Sahel et ailleurs prétendent parfois défendre certaines valeurs. Et lorsque ils commettent des actes qui visiblement peuvent nuire à cette manipulation souvent des faits, ben, il est logique qu'entre eux, ils se sentent coupables et qu'ils essayent de ne pas s'afficher avec de telles attaques.
L'opposition, notamment le principal parti d'opposition, le CDP, a déclaré que le gouvernement n'avait pas de stratégie de lutte contre le terrorisme après cette attaque de Solane. Et vous venez de dire donc qu'il faut une approche multidimensionnelle. Est-ce que ce sont aujourd'hui ou c'est aujourd'hui la seule faiblesse de la réponse ou de la stratégie du gouvernement burkinabé face à ces groupes terroristes ? Progresse.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'approche ou de stratégie multidimensionnelle, mais j'ai dit que déployer les forces nationales, si on se limite à cela, ne serait pas la traduction d'une approche multidimensionnelle.
Oui, vous dites que la réponse armée ne suffit pas, qu'il faut une approche multidimensionnelle. Alors ma question est de savoir, est-ce que cette absence d'approche multidimensionnelle que vous souhaitez est la seule faiblesse de la stratégie de Ouagadougou?
Il se peut que d'abord qu'il y ait une stratégie multidimensionnelle, mais que l'élan des choses, on mette en avant une composante parmi les plusieurs que constitue l'approche multidimensionnelle. Donc, tant qu'on n'a pas vu la traduction sur le terrain de l'ensemble des composants de cette approche, alors on ne peut que pointer du doigt l'aspect qui est visible. Alors, si il n'y a pas cette approche ou si ça tarde qu'on traduise les autres composantes de cette approche, évidemment, il faut faire un effort, et là, c'est l'appel aux autorités burkinabées, pour que, tout en s'appuyant sur l'approche sécuritaire, qu'on ne néglige pas les autres approches. Et même quand vous voyez, vous avez mentionné, avec les risques que cela peut comporter à l'avenir, mais vous avez mentionné, c'était l'année dernière, d'ailleurs, quand l'Assemblée nationale a approuvé le déploiement des VDP, les volontaires de défense.
Pour la défense de la patrie.
De la patrie. Exactement. Je pense que c'était en
2019.
D'essayer d'avoir l'engagement de certains civils, même si cela en les incorporant à la même approche sécuritaire. Mais c'est pour dire qu'il y a des tentatives pour ressortir la multidimensionnalité de l'approche, mais il faut concrètement que les actions qui sont menées sur le terrain reflètent cette complexité de la menace sur laquelle on s'appuie et à laquelle on fait face.
Alors, docteur, on se demande sur cette implication, cette utilisation des volontaires pour la défense de la patrie, pourquoi est-ce que cette stratégie ne marche pas selon vous ? Puisque visiblement, même après leur incorporation, on a eu plusieurs attaques. Et en 2020, ce corps, les volontaires pour la défense de la patrie, a subi un lourd tribut avec beaucoup de morts dans leur rang. Pourquoi est-ce que cette stratégie ne permet pas d'avoir des résultats plus efficaces selon vous ?
Justement, comme je disais, ils sont incorporés à l'approche militaire. Ils sont encadrés par l'armée. Ils reçoivent une formation sommaire de semaines, si j'ai bonne mémoire, quand ils ont
C'est
été lancés. Donc, ils sont perçus par les groupes armés comme faisant partie des forces de défense et de sécurité. Donc, c'est...
Mais les communautés les connaissent, ça devrait être une force pour ce corps. Pourquoi les communautés ne les aident pas, en quelque sorte ?
mais en quoi est-ce que la communauté peut les aider lorsque les groupes armés viennent les attaquer, eux, les VDP et la communauté? Quand on parle de l'approche autre que sécurité, ce serait justement de travailler étroitement avec les leaders communautaires. Vous vous souvenez que lors des élections l'année dernière, il semble qu'il y avait eu des approches avec les leaders communautaires pour assurer que ces derniers collaborent de façon plus étroite avec les autorités pour assurer une accalmie durant les élections. Si cela s'avère, comme on fait savoir certains observateurs, si on peut assurer une trêve pendant un mois, alors les stratégies qui ont permis cela, il faudra les explorer davantage pour qu'un mois devienne deux mois, trois mois, un an, et qu'on puisse avoir une situation de paix durable.
Merci, docteur Soiré. Liliane, nous allons écouter Blaise,
oui,
notre
tout à
confrère
fait.
De Pindjabena.
Oui.
Alors, Blaise, cette dernière attaque qui montre que les groupes armés semblent de plus en plus à l'aise sur le territoire burkinabé, est-ce que selon vous, cela remet totalement en cause la stratégie du gouvernement burkinabé à l'heure actuelle?
D'abord, je présente mes sincères condoléances au peuple burkinabé. Apparemment, l'armée burkinabé ne fournit pas beaucoup d'efforts pour chercher à neutraliser les groupes armés qui opèrent sur le territoire burkinabé. C'est un peu bizarre. Les gens doivent fournir des efforts pour chercher à, ou bien ils doivent chercher à comprendre qui alimente, qui leur fournit les armes et les munitions, qui les finance. De cette manière, nous pouvons chercher à trouver des solutions adéquates.
Mais c'est souvent difficile d'avoir ces informations sur les groupes armés, pas qu'en Afrique. Les groupes armés qui sévissent même ailleurs, il est souvent difficile de retracer toutes ces informations.
Mais les militaires burkinabés ne montrent pas et ne développent pas des stratégies pour contrecarrer les actions de ces groupes armés. Un militaire, quand il rate une stratégie, il doit développer une autre rapidement pour sécuriser la population. À ce niveau, l'armée burkinabée est manquée un peu des stratégies. Alors, ils doivent réfléchir d'une autre manière.
Merci Blaise pour ce premier commentaire, Liliane.
Oui, peut-être, on va peut-être marquer une pause et puis revenir dans quelques instants pour ne pas avoir à interrompre notre invité. Et à tout de suite.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Et toujours avec notre grand témoin, Dr Issiaka Soiré, expert international sur les questions de paix, de médiation et de gouvernance à Conakry. Blaise Dimadoum Gargoun, journaliste et analyste politique tchadien, est en ligne de N'Djamena avec nous. Et vous pouvez suivre cette émission en podcast sur nos sites internet africaradio.com et bbcafrique.com. Et vos réactions sont attendues sur la page Facebook, facebook.com/débat BBC. Africa Radio. Je reviens à vous, docteur Soiré. L'une des réponses donc du gouvernement dans sa lutte contre le terrorisme était ces VDP, ces volontaires pour la défense de la patrie. Et Saint-Yves faisait remarquer tout à l'heure que ces volontaires sont devenus les cibles prioritaires des groupes djihadistes. Est-ce que cela ne pose-t-il pas la question de la poursuite de ce programme?
Et ça, c'était prévisible dès lors qu'ils sont incorporés, ils sont encadrés par l'armée, ils sont perçus de la même manière que ces groupes-là perçoivent les forces de défense et de sécurité. Mais ce qu'il y a à souligner, à mon avis, par rapport au VDP, c'est la formation qu'on leur fournit, mais aussi l'encadrement pour s'assurer que certains ne se rendent pas des bavures qui pourraient retourner des populations contre des actions des forces de défense et de sécurité. Mais aussi, peut-être qu'on va dire que ce n'est peut-être pas tout de suite l'OTAN, mais il faut penser à ce qui va advenir de ces éléments-là plus tard pour que des civils qui reçoivent une formation militaire, qui sont armés, qui ne pourraient peut-être pas tous être incorporés dans les forces de défense et de sécurité.
Excusez-moi, de manière concrète, qu'est-ce que vous envisageriez si vous étiez sollicité pour donner des conseils, puisque vous êtes consultant au gouvernement? Est-ce que pour vous, il s'agit de réajuster le contenu de la formation en offrant peut-être à ces VDP des formations presque similaires à celles offertes aux soldats?
Peut-être les mettre davantage, le journaliste du Tchad parlait des questions de renseignement et ça on est au niveau de la police, de la gendarmerie et des services de renseignement. Les mettre avec ces éléments étant des civils, mais avoir une autre approche avec les populations, parce que les renseignements c'est difficile à obtenir sur les groupes armés, mais avec une approche de collaboration étroite avec les populations civiles pour d'abord priver les groupes armés d'abri lorsqu'ils viennent. On sait qu'ils sont menacés souvent. D'ailleurs, une des conditions que les groupes armés mettent en avant pour ne pas attaquer des populations, c'est d'obtenir de ces dernières de ne pas collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Mais en réponse à votre question, de façon concrète, serait de s'assurer qu'ils reçoivent une bonne formation, y compris en ce qui concerne le code de conduite, pour ne pas avoir la formation intégralement que reçoivent les militaires. Ça va prendre beaucoup de temps, mais le peu de temps qu'on leur consacre...
C'est-à-dire qu'on aille au-delà de deux semaines de formation et qu'ils soient presque aussi formés et opérationnels que les soldats.
Opérationnels, mais surtout la conduite, pour qu'ils n'agissent pas de façon contre-productive, parce que celui qui n'a pas reçu une certaine formation, mais... devant le danger, peut agir d'une manière qui peut ne pas être celle qui est souhaitée.
Merci.
Mais je mets l'accent surtout sur les autres approches qu'il faut adopter pour compléter l'approche sécuritaire.
Alors, dans la stratégie également du gouvernement, le ministre de la Réconciliation nationale a parlé dernièrement de l'ouverture que le gouvernement pourrait faire aux éléments des groupes armés burkinabés qui souhaiteraient se repentir ou alors revenir à la vie civile. Est-ce que, selon vous, c'est une stratégie qui pourrait permettre au gouvernement de récupérer un peu de terrain?
Oui. Et je pense que le débat s'est focalisé pendant longtemps sur une approche un peu dogmatique. On ne négocie pas avec les terroristes. Toute personne qui lutte, qui a des armes et qu'on peut essayer la convaincre de se détourner de cela, et s'il faut négocier avec cette personne, je pense qu'il faut le faire. On le fait déjà lorsqu'ils prennent des otages, on négocie avec eux, mais s'ils prennent en otage une région du pays, je pense qu'il faut le faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand on négocie avec des groupes, qu'on accepte toutes leurs revendications. Pareil, même dans toute négociation, quand on commence la négociation, les parties...
Il y a aussi ces informations basées peut-être sur des rumeurs, mais toujours est-il qu'on estime que le Burkina aujourd'hui est la cible des groupes terroristes qui l'a abrité à un moment donné de façon officieuse.
Sur ça, mais ce qui est sûr est qu'il y a des groupes armés qui agissent au Burkina qui peuvent être majoritairement burkinabés ou qui peuvent être, on apprend que des éléments du malien Iyad Agali agissent au Mali. Mais encore, retourner à votre question, négocier avec les groupes armés, sur tous les éléments qui sont des Burkinabés en leur offrant une voie de sortie peut, à mon avis, s'avérer une stratégie payante. Ça l'a été ailleurs. Vous vous souvenez, dans les années 2000, l'Ouganda a utilisé cette stratégie vis-à-vis des éléments de l'armée de résistance du Seigneur.
De Joseph Kony.
Et les ADF aussi. Et la stratégie consiste... Le Nigeria, je pense qu'à un certain moment, a prôné une telle approche vis-à-vis des éléments de Boko Haram. Ça consiste en quoi? Ça consiste en proposant à ces éléments que s'ils se désolidarisaient du mouvement, s'ils revenaient à la raison, alors on peut les accueillir, les mettre dans des conditions pour faciliter leur réintégration, leur réinsertion sociétale. Entendu surtout que ce ne sont pas tous les éléments qui sont dans ces groupes-là qui ils sont convaincus des revendications qui sont mises en avant par ces groupes. Il y a certains qui sont d'ailleurs arrêtés, incarcérés, retenus contre leur propre gré et qui sont obligés de lutter avec le groupe le temps qu'ils réussissent à s'échapper.
Donc, merci, docteur.
Une telle stratégie pourrait s'avérer payante.
En deux mots, le président burkinabé a déclaré lors d'une rencontre à Ouagadougou avec son homologue ghanéen, également président en exercice de l'Union de la CEDEAO, que personne en dehors des Africains réunis ne viendra sauver l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme. Et il a appelé les Africains à se ressaisir et de travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que cela ne peut pas laisser penser que la coopération et la mutualisation des efforts ne va pas aussi loin que le président burkinabé le souhaiterait, entre États évidemment?
Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'il dit, que les Africains doivent faire des efforts pour résoudre leurs problèmes, est une réalité. Ça n'exclut pas qu'ils aient le soutien des partenaires, mais en complément à leurs propres efforts. Et c'est dans ce cadre-là qu'à mon avis, doivent s'inscrire la force conjointe du G5 Sahel lancée en février 2017, mais aussi le processus de Nouakchott initié par l'Union africaine en 2013, qui était basé justement sur la mutualisation des efforts, des moyens des pays africains, de sorte à ce que les pays membres puissent s'aider mutuellement. Et il y a un concept qu'on emploie souvent contre des groupes transfrontaliers, c'est la haute poursuite, c'est-à-dire qu'il y ait une entente entre les forces de défense et de sécurité maliennes, burkinabées, nigériennes, qui permettent à des Maliens de poursuivre des groupes armés qui agissent au Mali, mais qui veulent fuir dans le territoire nigérien jusqu'à un certain niveau pour que la relève soit prise par leurs homologues nigériens. Donc, oui, les Africains doivent prendre leurs responsabilités et ne s'attendre qu'à l'assistance complémentaire, mais pas essentielle, des partenaires étrangers.
Prochain sujet.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Le consultant Issaka Tsouari est notre invité cette semaine en ligne de Conakry et en ligne de N'Djamena. Notre confrère Blaise Dimadoum Gargoun participe également à cette émission que vous pouvez retrouver sur nos sites internet bbcafrique.com et africaradio.com. Nous allons parler à présent d'un autre sujet sécuritaire. Fin de l'opération française Barkhane en tant qu'opération extérieure, c'est ce qu'a indiqué le jeudi le président français Emmanuel Macron, qui a également annoncé une transformation profonde de la présence militaire française au Sahel et la mise en place d'une alliance internationale de lutte contre les djihadistes dans cette partie du continent. Une semaine plus tôt, M. Macron annonçait la suspension de la collaboration militaire française avec le Mali après le deuxième coup d'État militaire du mois dernier du colonel Assimi Goïta, entre-temps devenu président de la transition. À ce stade, indiquait-on alors côté français, l'opération Barkhane souveraine en tant que telle n'est officiellement pas remise en cause. Et dans le même temps, Paris assurait que la décision de suspension de la coopération militaire avec le Mali est temporaire et réversible. Mais jeudi, Emmanuel Macron a donc mis fin à Barkhane, estimant que le rôle de son pays n'avait jamais été de se substituer aux États africains dans la lutte contre le terrorisme, ajoutant que la forme de la présence française au Sahel n'est plus adaptée à la réalité des combats. Pour certains experts, l'annonce de la fin de l'opération Barkhane est la reconnaissance par le président Macron que la stratégie définie par la France n'a pas fonctionné dans le Sahel. Et vous, docteur Soiré, quelle analyse faites-vous de la décision de M. Macron qui intervient, je le disais, en pleine brouille avec les nouvelles autorités maliennes?
D'abord, en ce qui concerne les opérations de Barkhane au Mali, si j'ai bien compris l'annonce du président français, ce n'est pas la fin des opérations, mais la suspension des opérations conjointes. Vous savez, dans une opération militaire...
Pardonnez-moi de corriger, il y a eu l'annonce de la suspension des opérations conjointes, mais jeudi, il a annoncé la fin de l'opération Barkhane.
Je reviens à cela. Justement, les opérations conjointes, donc ce que les forces, les éléments de Barkhane peuvent entreprendre conjointement avec des forces de FAMA, des forces de défense malienne. En ce qui concerne la déclaration d'hier de jeudi par le président français, si j'ai bien compris encore, il s'agit de la fin de Barkhane sous sa forme actuelle.
Absolument.
Cela veut dire qu'il préconise qu'il y ait une métamorphose de la forme
Barkhane. Un remodelage.
Exactement. Mais encore, cela revient à ce que vous avez mentionné tout à l'heure du commentaire du président burkinabé. Barkhane ou autre force, il revient aux forces africaines, aux pays africains, d'assurer la sécurité de leur pays et de leur population. Et les partenaires étrangers ne peuvent venir qu'en appui.
Parce que Mais est-ce que les présidents des pays du Sahel ont été contre cette approche? Je pense qu'il a toujours été clair, sauf erreur de ma part, que à terme, il s'agissait d'accompagner les forces de G5 Sahel pour qu'elles puissent être en mesure de sécuriser leur pays.
Tout à fait, tout à fait. Mais quand on écoute certains commentaires, évidemment, un départ brusque des Barkhane, alors que le dispositif sécuritaire même des pays du Sahel prennent en compte leur présence, peut créer des problèmes non souhaitables. Mais à terme, les pays du Sahel veulent ce soutien, mais à mon avis, peuvent faire davantage pour accroître leur propre capacité. L'exemple frappant, c'est le financement des opérations de la force conjointe du G5 Sahel. On a parlé de 400 et quelques millions d'euros. Je pense que cela était largement basé sur des promesses de financement des partenaires, les Français et les Européens notamment, et bon nombre des pays de la région ont pensé que ces promesses vont être concrétisées rapidement. À mon avis, une opération militaire est très très coûteuse. Mais ça dépend de comment vous allez la penser, et comment vous allez la déployer.
Merci, docteur Soiré.
Avec les moyens du bord, de vous mettre en avant avant qu'il y ait des opérations d'envergure.
Vous évoquez là déjà un défi en termes de mobilisation financière pour les pays du G5 Sahel qui devront reprendre en mai ces opérations de lutte antiterroriste. Blaise?
Oui.
Alors, est-ce que, selon vous, cette annonce d'Emmanuel Macron prend de court, en quelque sorte, les pays africains? On sait qu'en février, à N'Djamena, il avait dit qu'il n'était pas question d'un retrait brusque des troupes françaises de l'opération Barkhane. Quelques mois après, Il annonce la fin de Barkhane et surtout que le Tchad, qui est considéré comme l'un des plus grands contributeurs en termes d'éléments, en termes d'hommes dans cette force, est actuellement, et même dans la force G5 Sahel, est actuellement dans une période assez instable aussi avec le décès du maréchal Idriss Déby Itno. Est-ce que les autres présidents des pays sahéliens, selon vous, s'attendaient à cette décision d'Emmanuel Macron ?
C'est une décision surprise qui est arrivée, mais à mon avis, les pays du G5 Sahel doivent prendre leurs responsabilités pour assurer la sécurité de leur pays. Au Mali, les djihadistes mettent en danger la vie des Maliens pendant des années, sans que les pays du G5 Sahel s'organisent de manière efficace pour contrecarrer ces actions-là. La force Barkhane est venue en appui. Ils ne doivent pas continuer à compter sur la force Barkhane. Mais ce qui est bizarre, cette décision est tombée de nu et les différents chefs d'État des pays du G5 Sahel sont étonnés. Mais nous pensons que le président français reviendra à des meilleurs sentiments.
Vous espérez quoi? Qu'il revienne sur sa décision du retrait des troupes françaises?
Oui, mais ils peuvent agir d'une autre manière avec les pays européens sur place.
Alors, justement, il a évoqué, Emmanuel Macron, une participation européenne. Et on sait que depuis l'année dernière, il y a un groupement des forces spéciales européennes appelé Takuba, qui a été mis en œuvre et qui est basé au Mali avec 600 hommes. Est-ce que ce dispositif plus européen pourrait être plus efficace sur le terrain que Barkhane, par exemple, selon vous?
Nous sommes étonnés que les différentes troupes sur le terrain n'arrivent pas à mettre hors d'état de nuire les djihadistes. Pourquoi on a utilisé de gros moyens pour faire partir Gaddafi du pouvoir et nous sommes incapables de mettre fin aux actions des djihadistes pour sécuriser la population? C'est là la question. Au grand mot, des grands remèdes. Nous avons les troupes américaines stationnées au Niger pour fournir des informations, des renseignements, bien sûr. Nous avons la force Barkhane et Takuba. Et toutes ces forces unies sont incapables de venir à bout des terroristes. C'est un peu bizarre. Donc la question est politique et sécuritaire en même temps.
Merci.
Politique, oui.
Oui, allez-y, finissez votre...
Politique parce que les différentes puissances qui fournissent des éléments sont là pour protéger les intérêts. S'ils sont là pour assurer la sécurité des populations, ils doivent conjuguer les efforts pour mettre hors d'état de nuire les groupes armés.
Merci beaucoup, Blaise. Liliane.
Docteur Soiré, en quelques phrases, êtes-vous d'accord avec certains de vos collègues experts qui affirment que le retrait de Barkhane confirme la reconnaissance, enfin, par la France, que Barkhane a été un échec? Et pour vous, est-ce que ça a été le cas?
Est-ce que un échec, je ne sais pas, mais d'abord, à mon avis, il y a des charges qui viennent avec le maintien d'une telle force et l'appel des Français pour européaniser cette force française vise en partie pour alléger le fardeau financier. Barkhane, même Serval avant, ont obtenu des soutiens d'autres pays, y compris les États-Unis. On sait. Mais évidemment, Barkhane s'est focalisé sur essentiellement l'approche sécuritaire. Et comme je l'ai dit au début de cet entretien, le tout sécuritaire a ses limites. Donc, changer le modèle de Barkhane peut être le résultat d'une réflexion par rapport à ces limites-là, en plus du fardeau financier.
Mais pourquoi les pays européens, qui hier et américains aussi, n'étaient pas prêts à financer la force du G5 Sahel, le feraient aujourd'hui pour les forces spéciales annoncées?
Et bien aussi, les forces, vous parlez des forces spéciales annoncées au Burkina
dans le Sahel, pour remplacer justement
la force Takuba.
Tout à fait.
Eh bien, si c'est des forces spéciales des Occidentaux, ça, ce sont leurs forces. Et financer ses propres forces est plus facile que de financer les forces d'autres. C'est pourquoi dans le livre que nous avons publié il y a 2 ans sur la lutte contre le terrorisme, le sous-titre dit « Actes de bienveillance ou prétexte géostratégique ». Parce que les puissances étrangères qui viennent en Afrique pour lutter contre le terrorisme ou toute autre menace ont aussi leurs propres intérêts. Donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils financent avec le même enthousiasme leurs propres projets que les projets des autres.
Merci.
Donc c'est aux autres, nous, Africains, à prendre en charge nos propres projets. Maintenant, à avoir du soutien des partenaires, mais si, il faut dépendre des partenaires et soi-même, soit maintenant un accompagnateur des partenaires. Je ne pense pas que cela puisse s'avérer une stratégie qui nous permettrait de réussir contre ces groupes armés.
Et en 2 mots, docteur Soaré, quels sont les réajustements urgents que doivent opérer les pays du Sahel pour éviter un risque de déluge sécuritaire avec le départ annoncé de la force Barkhane?
2-3 choses à mon avis. La première, encore la composition, je n'ai pas vu le concept d'opération de la force conjointe du G5 Sahel. Il faut dire qu'il y a 2 forces multinationales dans le Sahel. Il y a la force conjointe du G5 Sahel. Il y a la force multinationale conjointe contre Boko Haram qui est pilotée par la commission du bassin du lac Tchad. Et donc, voir ça, je connais parce que j'ai été à la réunion de conception de son concept d'opération en 2013-14. Donc, il faut voir la conception qu'on a, quitte à réduire certaines projections financières pour pouvoir soutenir ça, même si on n'a pas le soutien immédiat ou d'envergure des partenaires. Deuxièmement,
très vite, s'il vous plaît,
ne pas prôner cette approche de tout sécuritaire. Il faut toujours agir sur les questions socio-économiques. Et troisièmement, à mon avis, renforcer les mécanismes de gouvernance dans les pays parce que cela fragilise ce qui se passe actuellement au Mali, fragilise la capacité de l'État malien de lutter contre les groupes armés.
Merci. Saint-Tich, avec vous, le dernier sujet, le Tchad.
Le Tchad que vous aimez, Liliane, nous en parlons encore. Alors, rien d'officiel
vous
n'a été mis en place. Rien d'officiel, je le disais, n'a été mis en place pour le dialogue national inclusif annoncé, mais les différents acteurs s'y préparent. Et dans la semaine, Wakitama, la coordination des actions citoyennes qui a dénoncé et qui continue de dénoncer un coup d'État constitutionnel, a déclaré qu'il prendrait part au dialogue prévu et la plateforme propose même l'expertise de ses membres qui étaient présents à la conférence nationale souveraine tenue en 1993. Toutefois, Wakitama a des conditions. Alors Blaise, dites-nous un peu quelles sont ces conditions que pose la plateforme Wakitama.
Wakitama accepte dialoguer avec le CMT et à condition que le CMT accepte après le dialogue quitter et laisser le CMT en place pour organiser une transition apaisée. Wakitama demande également la libération de tous les détenus lors des différentes manifestations et la prise en charge des parents des jeunes tués pendant les manifestations pacifiques.
Alors, si la plateforme demande au CMT de mettre en place un conseil républicain de transition, c'est-à-dire que Wakitama continue de ne pas vouloir des 18 mois de transition proposés par le CMT.
Oui, Wakitama ne reconnaît pas le CMT, mais malgré ça, il accepte s'asseoir et discuter avec le CMT dans le cadre, bon, c'est le bon sens peut-être qui anime le Wakitama pour sortir le Tchad du chaos.
Est-ce que ce sont des conditions qui peuvent être acceptées par le Conseil militaire de transition ?
C'est un peu difficile parce que le CMT est resté dans son camp. Jusque-là, nous n'avons pas encore eu des informations sur la déclaration de Wakitama. Donc nous attendons si le CMT peut prendre en compte les différentes propositions de Wakitama.
Alors, il y a aussi que dans la semaine, on a assisté à des signes de division au niveau de l'ex-parti au pouvoir, le MPS, le parti du défunt maréchal Idriss Déby-Itno. Les faits sont que la secrétaire générale adjointe du parti, Madame Madidian Ruth Padia, a convoqué un congrès. Congrès qui a été annulé par le secrétaire général Mamadzen Bada, qui est actuellement en France. Est-ce que le MPS est en train d'imploser ?
Le MPS est en train d'imploser et nous avons vu venir après le décès du maréchal, parce que du vivant du maréchal, bon, le maréchal de son vivant a dit qu'après moi, le mouvement patriotique ne va pas fonctionner comme il se doit. Donc déjà, il a eu division au sein du MPS. Il y a un camp qui s'active à organiser demain le congrès pour désigner un secrétaire général. L'autre camp conteste l'actuel secrétaire général est en France. Est-ce qu'il va revenir ? C'est toute la question.
Et est-ce qu'on sait aussi quelle est la position réelle du président du CMT, le fils Déby, sur cet événement politique ?
Le président serait même derrière c'est le congrès organisé le samedi 12 juin 2021. Ils ont leur camp. Mais
C'est-à-dire le président du CMT, le Mamad Idriss Déby, est de quel camp ?
Il est du camp de Madame...
La secrétaire générale adjointe.
La secrétaire générale adjointe, là.
Même si vous dites que le pouvoir soutient l'initiative de la tenue de ce congrès, est-ce qu'on peut néanmoins redouter des tensions ?
Les tensions, non. Non, les tensions c'est entre eux, hein. C'est entre eux, le peuple tchadien en train de les observer. On a dit tout ce pays ici-bas, ce qu'ils ont fait aux autres, ils sont en train de récolter.
Merci.
Qui sème le vent récolte la tempête.
Merci. Docteur Soiré, une réaction hein, sur non pas sur la querelle au sein du MPS, mais sur cette mobilisation aussi de la classe politique par rapport à ce dialogue. Saint-Tiche parlait de l'initiative de Wakitama qui dit être prêt à aller au dialogue, mais sous condition. Il y a aussi un collectif d'une vingtaine de personnalités politiques qui a également porté de la voix en se disant aussi prête pour ce dialogue. On a l'impression qu'il y a une lutte pour le positionnement, le repositionnement au niveau des acteurs politiques.
Je pense que la question du dialogue n'est pas nouvelle au Tchad depuis 2008 quand on a créé le cadre national du dialogue composé des principaux acteurs politiques. Et même pour l'adoption de la Constitution en 2018, ça a été précédé par un processus de dialogue et ce qui a été mis en avant depuis toujours par les organisations de la société civile et des partis politiques, c'est d'avoir un dialogue inclusif et sincère qui touche les questions de fond et qui permettra à tout un chacun de s'exprimer. Donc c'est dans ce sens-là que je peux lire ces revendications de Wakitama et des autres acteurs politiques. Je pense même le pacte a dit qu'il est le fait qu'il est le front pour l'alternance et la concorde au Tchad, le groupe armé, a dit à un moment, juste après le décès du président Déby, qu'il serait disposé à dialoguer pour lui que ce soit un dialogue inclusif. Donc je pense que c'est la logique des choses que les gens parlent des conditions. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas dialoguer. Justement, on dialogue sur ces conditions-là et on voit jusqu'où on peut aller.
Merci, docteur Soiré. Maintenant, les réactions de nos auditeurs avec Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat_bbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/débat_bbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Burkina Faso, pour Jean Zounon, le dialogue est l'ultime solution face à la menace terroriste dans le Sahel, car toutes les stratégies de défense ont échoué et c'est la population qui en paye le prix fort. De son côté, Guilhem Mupanda Gislain pense que le dialogue ne va pas aboutir car il s'agit d'une crise sécuritaire et non politique. Charles Bazema lui demande à notre grand témoin la solution qu'il aurait privilégiée s'il était à la place des décideurs burkinabés. Mali, Christophe Possinou s'interroge sur les atouts du président Assimi Goïta pour conduire la transition à bon port, sachant que le véritable problème du Mali n'est pas la politique, mais plutôt la sécurité. Onésime Mofanik, lui, estime que la population s'est préparée à chasser Ibeka du pouvoir, mais a oublié de penser à l'après-Ibeka. Pour notre internaute d'Abou Mekalavi au Bénin, dans 5 ans, on dira que le M5 a échoué et le cycle va reprendre. Dialogue au Tchad, archiduc Théodore de N'Djamena affirme que le dialogue de l'opposition tchadienne doit se baser sur la justice, puisque c'est l'injustice qui fabrique l'impunité, se soldant avec une crise interne difficilement curable. Merci à Didos Didier Afodo pour sa fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat-bbc-afrique-africa-radio. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous, Didier Ladislas Londo, et merci à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices qui nous écrivent sur la page Facebook de l'émission. Et c'est ici que prend fin ce numéro du débat BBC Afrique Africa Radio. Merci à notre invité, Dr Issaka Soare, consultant, expert international sur les questions de paix, de médiation et de gouvernance à Conakry. Merci à notre confrère tchadien Blaise Dimadoum Gargoun, analyste politique également. Réalisation de cette émission à Dakar, Abdou Diop à Paris, Hugo Vallière, chargé de production, Didier Ladislas Londo. Votre émission est à réécouter quand vous le souhaiteriez sur notre site internet africaradio.com, mais aussi sur le site bbcafrique.com, et partagez vos commentaires avec nous sur la page Facebook facebook.com/débat-bbc-africa-radio. Saint-Tiche, je vous souhaite un très bon week-end. Et
bon week-end à
la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.